Père, Seigneur, c'est dans le nom de Yeshua qu'on est rassemblés ce matin. On croit, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous. On croit, Seigneur, que tu as déjà commencé d'agir par ton Saint-Esprit dans le temps de louange. Mais on te laisse encore la place à travers la prédication de ta parole, l'enseignement de ta parole qui est la Bible. Puis on croit, Seigneur, que tu vas nous révéler ta pensée dans tout cela. Tu vas nous révéler ce qu'on a besoin de comprendre afin qu'on fasse des pas sur la terre, des pas dans ton chemin, dans le chemin dans lequel tu nous appelles de marcher. Fait qu'on remet cette réunion entre tes mains. Donne-nous de comprendre et d'être éclaircis par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on continue l'étude qui est sur les premiers pas. On appelle ça les premiers pas parce que ça nous parle de la base de la vie chrétienne, la base des enseignements que l'on croit. Puis si c'est des enseignements que l'on croit, mais il est important de savoir c'est quoi les enseignements qu'on croit, parce que des fois on s'engage à suivre Jésus, on veut devenir des disciples de Jésus, mais on le sait-tu dans quoi est-ce qu'on s'embarque quand on devient un disciple de Jésus? Parce que c'est correct d'accepter Yeshua, Jésus, comme notre sauveur personnel, c'est correct. Mais il faut aussi l'accepter comme notre Seigneur. Quand on l'accepte comme notre Seigneur, on accepte que Jésus règne sur notre vie. Quand il règne sur notre vie, ça veut dire que c'est lui qui est le maître, puis nous autres, on est ses disciples. Puis on se met à observer sa parole, à lui obéir, à marcher dans le chemin que lui, il nous enseigne. Puis pour connaître ce chemin-là, il est important qu'on fasse un cours de premier pas. Pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, c'est le chrétien puis le baptême d'eau, qui est une ordonnance de Jésus. Le chrétien s'engage à suivre Jésus, puis la Bible nous parle d'un baptême d'eau. Pour comprendre un peu plus en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est à pratiquer, de quelle façon, c'est ce qu'on va voir dans le cours ce matin. Premièrement, le baptême d'eau. Pour ceux qui ne savent pas, nous autres on est habitués avec l'Église catholique, quand on emmène les enfants se faire baptiser, ils reçoivent 2-3 gouttes d'eau sur la tête. Puis là, ils disent qu'ils ont été baptisés. On va comprendre le vrai sens du mot baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot baptême qui est dans la Bible, là, le mot original en grec, c'est baptisma. Ça veut dire immersion ou submersion. Ça veut dire dans l'eau complet. C'est pas juste aspersion, c'est pas juste gorocher 2-3 gouttes d'eau. La manière qui s'était pratiquée dans le temps de Jésus, c'est que les gens descendaient dans l'eau. Puis là, il baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puis il coulait le gars dans l'eau complète pour qu'il soit submergé. Parce que le mot baptême veut dire submergé. Il calait la personne dans le fond, puis il ressortait la personne de l'eau. Là, la personne pouvait dire qu'elle a été baptisée d'eau. Elle a été immergée. Puis c'est ça le vrai sens du mot. Quand on va voir l'Église catholique, ils baptisent avec 2-3 gouttes d'eau, c'est pas baptiser, ça c'est asperger. C'est pas le vrai sens du mot. Le baptême chrétien, là, parce que les chrétiens, Jésus a commencé à baptiser les gens, ses disciples baptisaient les gens, c'est un rite qui se pratiquait par tous les croyants. C'est un rite d'immersion dans l'eau, comme l'a commandé Christ. Par ceux qui ont confessé leurs péchés et professé leur foi en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont une nouvelle vie par l'action du Saint-Esprit, là, ils se faisaient baptiser, en devenant publiquement membres du corps de Christ et de l'Église. Voyez-vous, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, là, tu t'engages, oui, je le crois. La première chose que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu passes par le baptême, dans l'eau, comme c'était pratiqué. Là, on va voir des versets où ça nous parle du baptême. Ça va nous expliquer un peu comment c'était pratiqué. D'où provient le baptême d'eau? Qui a commencé ça? C'est Jean-Baptiste. Dans Marc 1:4, c'est le premier verset qu'on va aller lire. Jean parut. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il a commencé à prêcher le baptême d'eau avant que Jésus commence à prêcher. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste a commencé son ministère. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'en vient. Repentez-vous. Faites-vous baptiser pour démontrer à Dieu que vous êtes repentant. C'est ça que Jean-Baptiste prêchait. Faites-vous baptiser pour démontrer aux gens que vous regrettez vos péchés et que vous voulez en être pardonné. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'en vient. La Bible elle nous le dit dans plusieurs autres passages que Jean-Baptiste était là pour préparer le cœur des gens à recevoir le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu-là, il s'est présenté à travers de qui? Jésus. Jean-Baptiste était là comme pour préparer le peuple à croire au Messie qui s'en venait. Si vous pouvez écrire dans ce verset-là, d'où provient le baptême d'eau? Mais c'est Jean-Baptiste qui a été envoyé, qui a commencé à baptiser les gens. Puis dans son message, il voulait emmener les gens dans une repentance pour être pardonnés de leur péché. C'est comme si déjà il mettait l'accent sur le péché. Pourtant, dans ce temps-là, il aurait pu aller dans le temple puis offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. La loi de Moïse était là. Mais c'est comme si tout le monde le sait, dans le fond, que ça pardonnait pas, ça purifiait pas du péché. Puis les gens, il y avait encore comme une séparation entre le royaume de Dieu et eux, puis il y avait besoin de quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est le Jean-Baptiste a commencé à leur dire, repentance, faites-vous baptiser. On va comprendre d'autres points là-dessus un peu plus loin. Acte 19:4. Paul est en train de nous parler du baptême de Jean-Baptiste. Paul y dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Jean-Baptiste a commencé à prêcher la parole pour annoncer quelqu'un d'autre. Jean-Baptiste a commencé à dire, « Repentez-vous, soyez baptisés pour démontrer que vous êtes repentants. » Puis croyez en celui qui vient après moi. Jean-Baptiste, il ne voulait pas attirer le monde vers lui. Ce baptême-là avait pour but de préparer les cœurs à croire en Jésus. Jésus est paru quelques mois plus tard, qu'il a commencé à se manifester, puis qu'il a commencé à prêcher, puis a commencé son ministère de guérison, puis tout ça, après. Mais c'est Jean-Baptiste qui a initié cela, puis ça avait pour but de préparer le monde à croire en Jésus. Marc 11:30. Là, il y a plusieurs personnes qui se questionnaient, là, parce que là, les grosses religions de cette époque-là, les Sadducéens, les pharisiens, les juifs, là, il y avait des religions dans ce temps-là. Puis, même dans leur religion, la religion juive, il y avait des différentes opinions. Il y en a qui croyaient qu'il y avait une résurrection, il y en a qui croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection, il y en a qui croyaient aux anges, il y en a qui ne croyaient pas aux anges, puis il y avait comme tout le monde était mélangé dans leurs croyances. Puis Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a posé une question à ces chefs religieux-là. Le baptême de Jean, là c'est Jésus qui est en train de parler dans Marc 11:30. Venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ben ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. C'est quelque chose, ce passage-là, parce que Jésus s'est servi du témoignage de Jean-Baptiste. Là, il est allé voir ces chefs religieux-là qui ne s'étaient pas repentis à la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait dans le but d'amener le monde à croire en Jésus. Fait que Jésus s'arrive devant ces grands chefs religieux-là. Jean-Baptiste, quand il a commencé à baptiser, ça venait-tu du ciel? C'est-tu Dieu qui avait envoyé Jean-Baptiste faire des baptêmes? Ou ça vient des hommes, que les hommes ont décidé par eux-mêmes, que Jean-Baptiste aurait décidé par lui-même de commencer à faire des baptêmes? Pourquoi qu'il lui posait la question? Parce qu'il voulait faire réaliser à ces chefs religieux-là que le baptême de Jean venait du ciel. Parce que ça nous dit dans d'autres versets que Jean-Baptiste a été envoyé. Puis ça, il y avait un message dans l'Ancien Testament qui nous parle de ça, que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Il y avait une prophétie biblique qui disait qu'Élie viendrait et ramènerait le cœur des pères et les enfants. Mais un autre passage nous disait que il y aura une voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Qu'il y aura un prophète annoncé qui préparait le monde à croire au Messie. Fait que quand ils ont vu Jean-Baptiste en train de prêcher, ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste, ils n'ont pas cru en son témoignage, ils n'ont pas été se faire baptiser. Il y en a beaucoup qui ont été se faire baptiser. Mais eux autres, pour eux autres, c'est comme si c'était rien. Ils ne reconnaissaient pas la prophétie. Fait que quand Jean-Baptiste a préparé le monde à croire en Jésus, ils n'ont pas cru. Fait que Jésus sert de ça. C'est-tu Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste ou c'est des hommes? Il voulait faire réaliser aux Juifs religieux que c'était Dieu qu'ils avaient envoyé. Mais eux autres, ils ne voulaient pas se mouiller. Ils disent, nous autres, si on dit que c'est du ciel que ça vient, il va dire, pourquoi faire, vous n'avez pas cru en lui? Puis il dit, si c'est des hommes, mais il avait peur de dire que c'était des hommes, parce que tout le peuple croyait que ça venait, que Jean-Baptiste était un prophète venu de Dieu. Fait qu'il dit, je ne le sais pas. Ils ont répondu, je ne le sais pas. Mais nous, on le sait, parce qu'on étudie la Bible, on s'aperçoit que c'est Dieu qui a... D'où ce que ça vient, le baptême? C'est Dieu qui a dit à Jean-Baptiste de commencer à baptiser les gens. Fait qu'écrivez ça sur votre feuille. Marc 1, 4, 5. Ça nous dit, Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Autant que les chefs religieux ne voulaient pas se faire baptiser, la Bible nous dit que dans cette période-là, tout le monde qui vivait dans ces pays-là, dans ce territoire-là, venait à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Aujourd'hui, quand on parle, as-tu été baptisé d'eau? Le monde, je lui dis rien sur le baptême d'eau. Il dit, oui, je me suis fait baptiser à ma naissance quand je me suis fait asperger d'eau. Mais ça, c'est pas le vrai sens du mot baptême. Mais il faut savoir que c'est anormal d'être baptisé dans ce temps-là, parce que tout le monde, parmi le peuple, se faisait baptiser. Quand on parlait, as-tu été baptisé? Oui, j'ai été voyageant, je me suis fait baptiser. C'était normal. C'était dans la pensée de tout le monde. Aujourd'hui, on trouve ça étrange. Ils vont aller dans une piscine, ils vont aller dans un lac, ils vont louer le... Tu sais, il y a plusieurs religions aussi qui pratiquent le baptême. Puis la majorité du monde qui nous entoure ne connaissent pas que le rite de se faire baptiser, c'est un rituel, ce rituel-là, se faire baptiser, que c'est une chose qu'on devrait tous pratiquer. Mais dans ce temps-là, tout le monde le faisait, sauf quelques exceptions. Des ceux qui étaient chefs religieux refusaient ça, puis ils ne voulaient pas admettre que ça venait de Dieu. Jésus a-t-il accepté d'être baptisé? Oui. Matthieu 3, 13 et 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé. par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Puis là, il s'est fait baptiser d'eau. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cela? C'est que même Jésus, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher le baptême, puis a commencé à dire au monde, « Repentez-vous et soyez baptisés d'eau », Jésus n'a pas résisté à cela, sachant que ça venait de Dieu. Jésus a accepté de se faire baptiser. Puis il a dit, « Faut accomplir ce qui est juste. » Jésus est en train de déclarer que c'est juste qu'on se fasse baptiser d'eau. Parce que c'est une mission que Dieu a envoyée Jean-Baptiste, puis c'est juste qu'on la pratique. Ça n'aurait pas été correct de la part de Jésus de ne pas accepter de se faire baptiser, parce que c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser tout le monde. Voyez-vous, même Jésus s'est soumis à ce principe-là. Ça nous donne un exemple pour certaines personnes qu'on peut dire, « Ouais, mais ces gens-là, ils se disent, ouais, ben moi, je suis trop important pour me faire baptiser. » Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur, Créateur de toutes choses, lui, a accepté de passer par les eaux du baptême. Après ça, Jésus, quand il a continué à prêcher la parole, il a montré à tout le monde qui était le Messie, qui était le Oint. Comment? Mais par tous les enseignements qu'il enseignait, par tout ce que Jésus passait, il guérissait les malades, il a ressuscité des personnes mortes, il a délivré certaines personnes qui avaient des mauvais esprits, ils ont été délivrés des démons. Par tout ce que Jésus passait, la gloire de Dieu se manifestait, la puissance de Dieu se manifestait. Les gens le voyaient que Jésus était le Messie, puis il y a une des foules qui se faisaient baptiser par Jean, par Jésus, par après, par les disciples de Jésus, si on va le voir un peu plus loin. Jésus, dans son enseignement...
Jean-Baptiste, je viens de le lire, parce que tu l'entends pas. Qui a baptisé Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste ne s'est pas fait baptiser, c'est lui qui a commencé à faire... Okay. À moins qu'il s'est rebaptisé lui-même, là, mais non, il ne s'est pas fait baptiser. Okay. Il n'y a pas de verset qui nous dit que Jean-Baptiste s'aurait fait baptiser. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas été non plus. C'est juste parce qu'il n'y a pas de verset qui nous dit qu'il l'a été, mais ça dit que c'est lui qui a été le premier à commencer à le pratiquer, à faire baptiser tout le monde. Oui, c'est lui qui a la job par Dieu, puis c'est lui qui a commencé, puis Jésus il s'est soumis à ça. Oui, pour démontrer, parce que Dieu a montré des signes que Jésus était vraiment le Messie. Jésus, quand il s'est fait baptiser d'eau, ça dit que les cieux sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu comme un oiseau, comme une colombe, puis il s'est déposé sur Jésus, puis ça dit qu'une voix qui s'est faite entendre du ciel, ça dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Il y a eu plusieurs signes pour démontrer que Jésus était le Messie, puis celui qui avait envoyé Jean-Baptiste faire des baptêmes a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe venir sur lui, c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Fait que les gens, quand ils ont vu le Saint-Esprit descendre comme un oiseau, comme une colombe, quand ils l'ont vu arriver sur Jésus, ils savaient que c'était lui qui était pour être le Sauveur, celui qui était pour distribuer le Saint-Esprit. Jésus, par la suite, après avoir démontré qu'est-ce qu'il était, les 12 apôtres l'ont suivi, ils ont suivi son enseignement, il y en a un qui a abandonné, puis il était rendu 11. Jésus parla aux 11, il a donné un ordre à ses disciples. Autant que Jésus s'est soumis au baptême de Jean, puis il l'a accepté, bien, il a donné un ordre à ses disciples, dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous, dans une des dernières paroles que Jésus a dit pendant qu'il était avec eux, après sa résurrection, il s'est montré pendant 40 jours, puis une des dernières paroles qu'il a dit à ses disciples, là, il dit là, vous allez aller vers les nations, vous allez aller vers le monde qui vous entoure, puis vous allez en faire des disciples. La première chose que vous allez faire, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que les gens se fassent baptiser d'eau. Puis vous allez leur enseigner ce que je vous ai prescrit. Vous allez transmettre tout l'enseignement que je vous ai donné. Vous allez les former en leur donnant toutes les révélations que je vous donne. Je vais vous en révéler d'autres. Vous allez pouvoir former les gens qui vous entourent à devenir des disciples. Mais premier pas, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme un commandement que Dieu a donné à ses 11 apôtres qui étaient devant lui, puis il a dit, l'Église, là, elle commence. Premier étage, baptisez le monde qui va venir à vous autres, puis enseignez-leur la parole. C'est comme un acte d'obéissance. Quelqu'un qui se fait baptiser aujourd'hui, c'est comme un acte d'obéissance qui dit, moi, je m'engage à suivre Jésus. Le premier pas que je fais pour démontrer mon obéissance, j'accepte de me faire baptiser d'eau. C'est pas à cause qu'on est le premier ministre de la Terre qu'on doit dire, ah, oh, ben moi, je suis trop grand, moi, quand je suis un trop grand personnage pour me faire baptiser. Ou l'autre qui dit, moi, je suis trop petit, je suis pas digne de me faire baptiser. Non. Aller par tout le monde, c'est que c'est tout le monde doit passer par les eaux du baptême comme premier pas d'engagement pour devenir un disciple. C'est comme si c'est le premier pas d'obéir à Dieu. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai accepté Jésus, mais je ne veux pas me faire baptiser. Mais veut pas, une personne qui pense comme ça est en train de se rebeller à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a dit, faites-vous baptiser. Vous allez comprendre un petit peu plus loin que ça représente le baptême, ça représente ton engagement. Si tu n'es pas prêt à te soumettre au premier pas d'obéissance, à quoi tu vas vouloir te soumettre dans le reste de ta vie? Quelqu'un qui se fait baptiser d'eau, c'est son premier geste pour dire au Seigneur, « Seigneur, je crois en toi, puis je t'aime, mais je vais te le montrer. J'accepte d'être baptisé parce que tu me demandes de l'être. » C'est pas plus compliqué. Les premiers apôtres, quand ils ont prêché, après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, là, Jésus il a dit aux 11, là, « Attendez, vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous. » Puis ça, c'est à l'accomplissement de la promesse que l'Esprit de Dieu est supposé être répandu sur tout le monde qui croit. Là, les disciples étaient en prière, puis attendaient de recevoir cette promesse-là. Ben, Jésus leur avait dit, « Attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. » Puis là, après ça, vous allez être des témoins. Les disciples étaient en prière. Ça nous dit que le jour de la Pentecôte, qui est 50 jours après avoir été mort, Jésus, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient dans ce lieu-là. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues, puis c'était vraiment, la puissance de Dieu se manifestait tellement fort, avec un gros vent qui s'est produit, puis tout ça, qu'il y avait ce journée-là, il y avait une fête à Jérusalem, c'était la fête de la Pentecôte, puis il y avait plein d'une multitude dans cette ville-là de gens qui venaient de tous les pays, qui venaient pour fêter à Jérusalem. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit, puis ils se mettent à parler en d'autres langues, puis ça dit qu'ils étaient dans une chambre haute. Ils étaient comme au deuxième, sur le top d'une maison, là. Quand ça s'est produit, c'était tellement puissant que tout le monde qui était à la fête, par le bruit que s'est produit là, sont amassés au ras de cette maison-là. Là, le monde commence à rire des disciples, puis il dit, ils sont pleins de vin doux, ils sont sous cette gang-là, c'est quoi qui se passe là? Ils sont tous en train de louer le Seigneur, puis parlant d'autres langues. Mais ils étaient tous étonnés, parce que c'était des gens qui venaient des Juifs qui venaient de d'autres pays. Puis il dit, ils entendaient les 12 apôtres parler en diverses langues. Fait qu'il y en a un qui venait de Perse, il entendait des chrétiens parlant en Perse. L'autre venait de la Mésopotamie, il entendait du monde parler que le langage de Mésopotamie. Puis l'autre, d'un autre territoire, il entendait les disciples parler dans des langues, de leur langue d'origine, de leur pays. Fait que là, ce signe-là est assez puissant que les gens, ils se passent quelque chose de Dieu là, dans ce bâtiment-là. Ils sont approchés au relais baptiste, mon Pierre sort dehors puis commence à lui prêcher que vous avez crucifié le Seigneur de gloire, vous l'avez pendu au bois, Mais Dieu l'a ressuscité, puis là, il a commencé à lui expliquer l'Évangile, la bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a commencé à lui expliquer, mais il était rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Acte 2:38, il est en train de parler à la foule, là, puis Pierre lui dit, parce que là, ça nous dit dans le verset juste avant, les gens, ils avaient le cœur touché. Il avait le cœur vivement touché. Il sentait que la puissance de Dieu était là. Il avait entendu le monde parler dans leur langue qui vient d'un autre pays. Et tout ce qu'il entendait de Pierre en train de prêcher, il était touché. Puis là, il avait le goût de broyer, puis il ne savait plus qu'est-ce qu'il allait faire. Puis on dit, « Homme, frère, que ferons-nous? » Là, Pierre lui a dit, « Repentez-vous! » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est un peu dans la même pensée que le baptême de Jean. Le peuple en entier avait été préparé, tout le monde s'avait fait baptiser d'un baptême de repentance. Mais là, il est en train de leur dire, « Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. » pour le pardon de vos péchés, parce que c'est Jésus qui est envoyé pour mourir sur la croix, pour payer pour les péchés de tout le monde. Fait que là, il a dit à la foule, vous voulez montrer que votre engagement, faites-vous baptiser d'eau en vous repentant, puis vous allez être pardonné de vos péchés, puis vous allez recevoir le Saint-Esprit. Là, c'est comme si je sais déjà qu'il y en a que le poil se redresse en lisant ce verset-là, puis ils disent, ouais, mais ça veut dire que le baptême sauve? Non. Ça dit pas que c'est le baptême qui sauve. Ça dit que leur repentance, leur foi en l'œuvre accomplie de Jésus, mais en faisant un pas de foi, de s'engager, parce que c'est beau de le savoir que Jésus est mort sur la croix pour pardonner des péchés, mais la connaissance ne sauve pas. C'est quand tu fais le pas d'obéissance, d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel, dans la repentance. C'est ta repentance et ta foi envers l'œuvre accomplie de Jésus qui te sauve. Ça, on va le voir dans d'autres versets un peu plus loin. Si une personne regrette le mal qu'elle a fait, puis qu'elle veut changer de vie, puis qu'elle croit que Jésus a payé le prix pour être pardonné, tu t'engages à suivre, à l'accepter, ce sauveur-là, mais à le suivre. Ton premier pas va être te faire baptiser. Puis ça dit que tu vas être pardonné de tes péchés, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. Or, sans d'être vraiment repenti, tu ne peux pas avoir été pardonné, ni avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut comprendre que le salut, là, être sauvé, c'est que Dieu reforme une communion avec nous, puis qu'on marche en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ça, être sauvé. Avant, on est mort. Mort, ça veut dire séparé. On est tous des séparés de Dieu en partant. On a besoin de retrouver que Dieu rentre en nous. C'est pas retrouver que Dieu, mais c'est on a besoin de qu'à un moment donné, Dieu entre en nous, parce qu'on part pas en partant avec Dieu en nous, on part perdu. Mais on a besoin que Dieu enlève premièrement ce qui nous bloque d'avec Dieu. C'est quoi? C'est nos péchés. Puis comment est-ce qu'on a, ça s'enlève tous nos péchés? Mais c'est à cause de notre repentance et de notre foi qu'on croit que Jésus a payé le prix. Si tu te repens et tu crois, il te pardonne. Quiconque croit en Jésus ne sera pas confus. Parce que toutes ces promesses à Dieu, quand Dieu promet quelque chose, Dieu l'accomplit. Mais qu'est-ce que vient faire le baptême là-dedans? C'est que c'est pas le baptême qui va sauver, c'est la repentance puis la foi dans le nom du Seigneur que lui sauve. Si tu crois que Jésus il a tout fait pour que tu sois pardonné, puis tu te repens face à lui, tu vas être déjà sauvé avant même d'avoir été baptisé d'eau. Le baptême d'eau est comme un pas d'obéissance parce que tu t'engages à le suivre, tu démontres publiquement ce que tu crois. Mais le baptême d'eau ne sauve pas. La preuve, si vous ne vous repentez pas, allez vous faire baptiser une fois par jour jusqu'à la fin de votre vie, puis attendez de voir si vous allez être sauvé à la fin, si vous n'êtes pas repenti, puis vous ne croyez pas que Jésus, c'est le sauveur. Si vous ne le croyez pas, vous ne vous repentez pas face à lui, même si vous feriez baptiser 5 fois par jour, à la semaine longue, ça ne vous sauvera pas. Le baptême ne sauve pas personne. Il faut que, premièrement, tu aies la foi avant d'être fait baptiser. Quand tu as la foi, c'est là que tu commences à comprendre que Jésus est mort pour toi, ta foi. Tu vas premièrement te repentir face à Dieu, parce que c'est notre repentance qui nous amène à être pardonné. Celui qui ne confesse pas son état puis qui ne confesse pas ses péchés ne peut pas être pardonné. Même quand tu grandis dans le Seigneur, ta vie chrétienne de tous les jours, pour garder une communion, pour continuer à marcher en communion avec Dieu, à marcher dans la lumière, ça nous dit aussi de confesser encore nos péchés. La confession doit être le centre de notre position devant Dieu. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai confessé que j'étais un pécheur, puis que j'étais séparé de lui, puis je le savais, j'avais une conviction que je m'en allais dans le chemin de la perdition, puis que les temps de feu m'attendaient. Mais quand je me suis repenti, j'ai regretté ma vie, j'ai demandé pardon à Dieu pour qu'est-ce que je faisais de pas correct devant lui, puis j'ai dit, je le crois que Jésus a payé le prix, qui est mort sur la croix pour me pardonner à ma place. Je l'ai accepté comme mon sauveur, puis comme mon Seigneur, puis là, je me suis engagé à le suivre, à le servir pour le reste de ma vie. Première chose que j'ai entendue après l'avoir accepté, le pasteur parla de baptême. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté de me faire baptiser pour obéir au Seigneur, pour lui montrer que je l'aime. Je me suis fait baptiser. Mais mon salut vient au moment où je me suis converti, pas au moment de mon baptême. Le baptême sauve pas juste. On va voir des versets qui nous parlent que ça démontre quelque chose.
C'est la foi. La foi vient, on est sauvé par la foi. C'est notre
foi qui nous sauve. Il faut que tu aies la foi, mais ta repentance aussi.
Ça vient de où, cette foi-là? C'est une foi à l'autre? Ou vient de
la foi, comme qu'on a parlé au début de la réunion, c'est une ferme conviction que tu démontres. C'est que par la suite d'avoir lu la Bible ou par la suite d'avoir entendu quelqu'un te parler de Jésus, te parler du plan du salut, quand tu en entends parler, il se passe quelque chose en dedans de toi. C'est soit que tu es quelqu'un qui croit ou quelqu'un qui veut rejeter. C'est simple. Il y a des... La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que quand quelqu'un, soit que tu lis la Bible personnellement ou quelqu'un t'en parle, ta foi va être dans les écrits de la parole de Dieu, c'est elle qui va stimuler la vraie foi. Parce qu'il y a plein de religions sur la terre, c'est pas les religions qui sauvent. C'est la foi dans ce que la parole de Dieu a annoncé. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible. Il y a des gens qui n'en ont pas de Bible, qui n'en veulent pas, mais comment ils vont pouvoir le savoir, ce que Dieu a dit? Puis si tu en as une, puis tu ne la lis pas, à quoi ça sert? Comment peux-tu dire que tu as la foi en Dieu, puis en sa parole, si tu ne lis pas sa parole? Ta foi en quoi, en fin de compte? C'est pour ça qu'il est important de la lire, puis de la vivre. Tu démontres à Dieu que tu as une foi qui est vivante. D'une personne qui n'est pas sauvée, qui n'a pas encore fait le pas de demander pardon, en entend parler, il se passe quelque chose en dedans parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. C'est une puissance de Dieu pour sauver. C'est ça que ça nous dit dans un verset dans Romains. Fait qu'il faudrait s'encourager à lire la Bible. Puis ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore fait le pas de l'accepter, commencez à lire. Puis si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, lisez le Nouveau Testament, vous allez comprendre ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait, vous allez comprendre aussi les enseignements des apôtres, puis là, vous allez dire, hey, c'est vrai, ça me touche, je me sens attiré, il y a quelque chose qui fait que j'ai le goût de parler à Dieu, j'ai le goût d'être en contact, puis là, on va mettre notre vie en règle. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de pas correct, puis là, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, votre repentance va vous amener à être pardonné, puis à recevoir le Saint-Esprit. Comment les gens étaient-ils réceptifs au baptême? Jean 4, 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était des disciples, ses disciples. Il est venu une période dans le ministère de Jésus. Là, tout à l'heure, j'ai dit que Jean-Baptiste, pendant qu'il prêchait, ça disait « Toutes les foules venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. » Quand Jésus a commencé son ministère, Jésus s'est fait baptiser, puis là, Jésus, aussitôt après son baptême, que le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe, il a commencé à prêcher tout de suite, lui-ci, « Repentez-vous, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. » Là, il a commencé son ministère, Jésus. Là, il a commencé à faire des baptêmes, à baptiser le monde, à venir à lui. Puis ça dit qu'il baptisait plus de monde que Jean-Baptiste. Oui. Jésus baptisait plus de monde que Jean-Baptiste. Jésus acceptait tout le monde qui venait à lui pour se repentir. Le seul petit problème, ça ne dit pas que tout ce monde-là a été sauvé. Parce que les gens croyaient en Jésus, mais est-ce qu'ils étaient prêts à s'engager à avoir vraiment une réelle repentance? Jésus a parlé un petit peu plus loin dans sa parole. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » Voyez-vous, il y a des gens qui se sont fait baptiser par foule qui venaient à Jésus pour être baptisés. Puis quand on voit un peu plus loin, tous l'abandonnèrent. Il y a des versets qui nous disent ça. Ils se retrouvaient avec les 12 qui étaient au roi Jésus. Puis dites-vous, vous ne voulez pas vous en aller? Là, il y a un des 12 apôtres qui dit, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Eux autres, ils avaient eu une véritable conversion. Ils savaient qu'est-ce qui était Jésus, puis ils s'étaient réellement engagés. Ça dit là qu'ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Il y en a des premiers disciples là, qui allaient à la pêche, c'était leur métier d'être pêcheurs. Puis ils ont abandonné leur père avec leur barque, puis ils sont partis suivre Jésus. Quand tu t'engages à suivre Jésus, une véritable conversion, tu es prêt à abandonner tout ce qui peut te nuire pour t'empêcher de suivre Jésus. Je ne dis pas que tout le monde va lâcher le job pour suivre Jésus, mais il y a des gens qui ont gardé le job après avoir accepté Jésus, mais ça, c'est le point. Et tout abandonner, ce qui pourra nous nuire de le suivre, parce qu'on est prêt à le suivre, à le servir jusqu'à la fin. C'est des véritables conversions. C'est pas le fait d'avoir été baptisé que tu es sauvé, c'est si tu es réellement repenti et tu as vraiment accepté pour suivre jusqu'à la fin. Mais pour dire que c'était populaire, les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de Jésus baptisaient des multitudes en plus grand nombre que Jean-Baptiste. De quelle façon le baptême doit être administré? On a vu tantôt qu'il dit « Baptisez-les dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Si on a vu ça. Mais là, ici, on va voir un autre détail que la Bible nous dit pour nous aider à comprendre le sens du mot baptême dans Jean 3, 23. Jean aussi baptisait à Énom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. En principe, tu ne peux pas être baptisé dans un verre d'eau. Pourquoi? Parce que tu serais aspergé d'eau. Ça prenait un endroit où il y avait assez d'eau pour t'immerger, pour que ça aille le sens du mot baptême, qui veut dire immersion. C'est là que ça nous dit, Jean-Baptiste, il baptisait les gens où? À Énon, près de Salim, parce que là, il y avait beaucoup d'eau. Fait que les foules allaient se faire baptiser là, dans cet endroit-là, où il n'y avait pas d'eau. Ça prenait pas d'eau pour couler tout le monde, dans le fond. Non, mais ça l'aide à comprendre que c'est pas. Ils auraient tous pu prendre un verre d'eau, puis commencer à arroser 3-4 gouttes tout le monde. Ça, si c'était ça le baptême, ils auraient pu faire ça n'importe où, dans n'importe quelle ville. Non. Le monde allait à cet endroit-là où il y avait beaucoup d'eau pour avoir le vrai baptême qui voulait dire être immergé. Quels sont le ou les critères pour être baptisé? Qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que faut j'ai pour être baptisé? Actes 8, 36. Là, ça nous parle d'un évangéliste qui se promène et qui évangélisait les gens en leur expliquant le message de l'Évangile. Il arrive dans un chemin et il rencontre un personnage qui est un Éthiopien. C'est un surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. C'était pas n'importe qui, ce gars-là. Ce gars-là, c'était le surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Ici, au Canada, là, on marche, on est premier ministre, on a des ministres, puis dans les ministres, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre des Finances. Mais le personnage le plus haut dans le Canada, c'est le premier ministre. Dans les grades là, de hiérarchie, après ça, c'est les ministres, des grands hommes que Dieu a quand même placés là avec des talents pour administrer un pays. Sont bien plus intelligents que moi dans le sens humain, dans le sens de pouvoir administrer un pays. Moi, je ne suis pas capable d'administrer un pays. J'ai de la misère à administrer ma propre vie. C'est une joke, là, mais c'est une façon de parler. J'ai pas les compétences d'administrer un pays. Mais ce gars-là, qui est un haut personnage, il nous donne un exemple. Là, il est en train de parler de la parole de Dieu avec ce gars-là, ce surintendant-là de tous les trésors. Puis comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Puis l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Là, ça nous dit dans l'autre verset, « Ils arrêtaient le char, ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. » Voyez-vous, qu'est-ce qui empêche qu'une personne soit baptisée? Le premier des plus grands critères, si tu crois de tout ton cœur, si tu as juste une partie de ton cœur qui croit, puis tout le trois quarts de ton cœur n'a pas l'intention de vouloir croire, tu n'as pas un cœur entier, tu n'as pas un cœur sincère, tu n'as pas un cœur dans une disposition à vraiment t'engager et à suivre. Suivre Jésus, c'est pas le suivre quand ça va donner, quand ça me tente. Quand je vais avoir le goût, je vais aller à l'église, puis à part de ça, ça me tente pas pantoute. Quand j'ai. Si c'est. Tant qu'à t'engager dans quelque chose, moi, si j'étais faire application pour travailler comme chauffeur d'autobus, parce que j'avais l'intention de me lever à tous les matins, puis d'y aller travailler. Si j'ai pas l'intention d'y aller travailler, ça donne quoi de faire application? Si le gars me dit, je te prends, puis je reste chez nous à tous les jours, puis ça me tente pas de me lever, j'ai pas démontré à mon patron que j'étais intéressé à travailler là. Mais suivre Jésus, faut que tu aies tout ton cœur à décider, je le crois. Puis c'est quoi qui a répondu? Je le crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Fallait que tu croies, il y a plusieurs choses qui est nécessaire de croire pour t'engager. Qu'est-ce qui est Jésus? Jésus, la Bible nous dit que c'est le Fils de Dieu. À d'autres places, elle nous dit que c'est Dieu lui-même fait homme. À d'autres places, elle nous dit que c'est le Christ, le Messie, le Oint, le Sauveur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans Jésus. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père, tu vois Jésus, tu vois le Saint-Esprit, tu entends la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il représente, Jésus? Il représente, dans cette période-là, le Messie. Celui qui est venu pour nous sauver. Fait que si tu crois que Jésus est le Messie, si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis qu'il est ressuscité le troisième jour, si tu crois que ce qu'il a fait... Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible pour toi de te faire baptiser. Un deuxième critère qui complète la même affaire, vous allez voir le sens là, dans Marc 16:16, qui est le même critère, mais dit dans un autre verset, mais qui est important de garder l'ordre des choses. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Premier critère, celui qui croira. Ça revient au même principe de l'autre verset qu'on vient de lire tantôt. Faut que tu croies en ce que Jésus est, en ce que Jésus a fait, puis il faut que tu croies au point d'être prêt à t'engager. Ensuite, tu vas te mettre à obéir au Seigneur, te faire baptiser. Tu peux pas te faire baptiser à la naissance puis décider de croire à 30 ans plus tard, là tu commences à comprendre puis là tu décides de te faire baptiser. Ça marche pas de même. Premièrement, tu as la foi, tu as la croyance, tu as la foi, puis ensuite ton engagement. Puis le baptême, c'est le baptême pour démontrer ta foi. Puis on va le voir dans d'autres versets. Mais c'est pas le baptême qui sauve. C'est la croyance. Parce que dans ce verset-là, dans le même verset, ça dit « Celui qui ne croit pas sera condamné. » Ça n'a pas dit « Celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. » Ça dit « C'est celui qui ne croit pas qui sera condamné. » Le baptême ne sauve pas. C'est la croyance puis ton engagement. Que démontre le baptême? 1 Pierre 3, 21. Dans ce verset-là, dans 1 Pierre 3, 21, ça nous parle du déluge, quand il y a eu le déluge sur la terre. Tout le monde se rappelle que Noé a construit un arche, tous les animaux sont rentrés dans l'arche. C'est comme si Noé était le seul personnage que Dieu trouvait juste sur la terre. Lui, puis ses enfants, puis les femmes de ses enfants, il était 8, lui, sa femme, puis ses 3 enfants, puis les 3 femmes de ses enfants, plus un couple de chaque animal sont rentrés dans l'arche. Là, il y a eu le déluge, puis ça dit que l'eau a recouvert la terre en entier. Puis il n'y a pas une parcelle de terre sur toute la terre qui n'a pas été recouverte par l'eau du déluge. Puis Pierre est en train de se servir de l'exemple de ça, du déluge. Il dit « Cette eau était une figure du baptême. » C'est un exemple pour nous démontrer c'est quoi le baptême. C'est pas la purification des souillures du corps, parce qu'il y en a qui pensent que le fait qu'ils se font baptiser, ils se font purifier. Non. Le baptême sauve pas. Le baptême n'est pas une purification des souillures de ton corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est une démonstration de ton engagement. Quand il y a eu l'eau du déluge qui couvrait la terre, c'est comme si la terre a été complètement baptisée d'eau. Puis Noé, il était le seul qui était comme le fidèle, l'engagé à suivre Dieu sur la terre. Le représentant, c'est le seul qui a passé à travers. Mais il dit, le baptême d'eau, là, il dit, c'est pas une purification de tes souillures. Il dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est comme ton premier pas d'obéissance. Ben, un des premiers pas, c'est pas le premier pas. Le premier pas, là, c'est de te repentir, te croire puis te repentir. Puis là, par la suite, tu démontres à Jésus que tu veux te faire baptiser. Fait que là, tu te fais baptiser pour montrer que tu es vraiment une personne repentante. Mais ça te purifie pas, l'eau du baptême. Mais notre engagement nous sauve à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Romains 6, 4. Ça nous démontre encore une image c'est quoi le baptême. C'est comme une image qui est bien pareil comme tu rentres dans l'eau puis tu sors de l'eau. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort et comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Quand tu es né de nouveau, c'est pas le baptême ici, ça parle pas du baptême d'eau, là. Ça parle du baptême, te revêtu Christ pour être pardonné de tes péchés, t'es né de nouveau, t'as reçu la justice qui vient de Christ, t'as revêtu Christ pour ton salut. Ça dit que t'es mort, t'es devenu un mort. Aux yeux de Dieu, tout ton passé, il est mort. Dieu, il te voit comme un mort. T'as accepté Jésus, t'as demandé pardon, tu t'es repenti, il te pardonne, puis toute ton ancienne vie, t'es mort avec Jésus, t'es enseveli avec Jésus, puis t'es ressuscité après ça comme une nouvelle créature. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais ça dit que le baptême d'eau, là, c'est comme un exemple de ça. Quand tu te fais couler dans l'eau, c'est comme si tu te fais enterrer, comme par Jésus, il était enterré. Il était enseveli 3 jours de temps. Quand tu es dans l'eau, c'est comme si tu étais enseveli. Puis quand tu sors de l'eau, c'est comme si tu étais un être ressuscité. C'est comme si tu as démontré publiquement qu'est-ce qui s'est passé quand tu es né de nouveau. Ta nouvelle naissance, tu l'as eue quand tu t'es repenti et que tu as cru en Jésus. Ça, on en a parlé dans l'étude sur le salut. Puis pour démontrer publiquement ce que tu as vécu, tu te fais baptiser d'eau, tu es enseveli et tu es une nouvelle créature, tu es ressuscité. C'est ça que ça démontre le baptême. C'est ça que c'est en train de nous dire dans ce passage-là. Hein? Prochaine question. Peut-on être sauvé sans être baptisé? C'est important de le savoir, parce que là, on voit plein de passages qui nous incitent à se faire baptiser pour démontrer qu'on aime le Seigneur. Ça peut-il arriver qu'une personne soit sauvée sans avoir été baptisée? Acte 10, 47. Ça va vous démontrer que le baptême ne sauve pas. Dans Acte 10, 47, ça dit, l'apôtre Pierre, il est en train de prêcher la parole à un groupe de personnes. Puis pendant qu'il est en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux autres. Tous ces gens-là croyaient déjà en Dieu. Ça nous disait que dans le texte plus haut, c'était des gens qui priaient, c'était des gens qui cherchaient la face de Dieu. Il avait la crainte de Dieu, il faisait beaucoup d'au monde. C'est un gars qui croyait en Dieu, mais il ne savait pas le chemin du salut. Fait que là, Pierre, il commence à lui expliquer, parler de Jésus, il lui explique toute la parole. Puis pendant qu'il est en train de parler, les gens, ils avaient la foi. Puis le Saint-Esprit est descendu sur ces gens-là, puis ils ont été sauvés. Ils sont nés de nouveau. Ils n'avaient pas encore été baptisés, mais ils ont été sauvés. Ils ont reçu le Saint-Esprit pendant qu'il était en train de leur parler. Il n'avait pas été baptisé d'eau. Est-ce que tu es obligé d'être baptisé d'eau pour être sauvé? Non. Tu es sauvé avant d'être baptisé. Après ça, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Fait que tu peux être sauvé, recevoir le Saint-Esprit, et après être baptisé. Oui. Oui, on peut être sauvé sans avoir été baptisé d'eau. Je vais vous donner un autre exemple de cela. Dans Luc 23, 43. Jésus, quand il s'est fait crucifier, ça dit qu'il y avait 2 autres personnes, un chaque bord, qui sont faites crucifier. Un à sa droite, un à sa gauche. C'est 2 personnes qui étaient méchantes, puis les crucifixions, là, c'était les criminels qui se faisaient crucifier. C'était comme la pire peine de mort qu'ils pouvaient donner à cette époque-là, c'était la crucifixion. Parce que c'était pas juste le fait de se faire électrocuter ou de se faire couper la tête. Ça, c'est instantané. Ou se faire injecter un produit pour que tu meurs quasiment instantanément sans douleur. Non, la crucifixion, c'était les pires criminels qui envoyaient la crucifixion, puis ces gens-là, ils portaient leur croix pendant un bon bout à travers la ville. Tout le monde, à chaque bord, ça criait des bêtises, ça garochait des roches, ça crachait sur eux autres, ça arrachait des poils de la face ou de la tête. Puis c'était un chemin de honte et d'humiliation, jusqu'à temps qu'ils soient plantés des clous dans les mains puis dans les pieds, suspendus dans le vide, accrochés sur une croix, jusqu'à temps qu'ils meurent par les souffrances du temps et de l'étirement que ça te fait, que ta cage thoracique n'est plus capable de respirer, tu n'as pas la force de te relever pour prendre ton respire, tu meurs au bout de ton souffle pendant que tu es à la vue de tout le monde, puis tout le monde t'humilie, puis te crache dessus, puis qui te niaise, puis que là, tu peux plus rien faire que d'attendre que tu meurs par asphyxie, hein, que tu meurs plus capable de respirer, puis tout en sachant que tu souffres à cause d'un clou, une pine des tracts de chemin de fer plantée dans les bords en bord des 2 pieds puis des 2 mains, puis ton sang qui coule, puis ça part des coups de fouette que tu as eus, et ainsi de suite. C'était des criminels. Puis Jésus était mis au comble il était crucifié parmi des criminels. Entre 2 criminels. Il était considéré comme un criminel. Mais il fallait qu'il passe par là pour payer pour les péchés de l'humanité. Il fallait qu'il passe par une souffrance que lui ne méritait pas pour qu'on puisse être pardonné. Puis pendant qu'il était sur la croix, c'était deux criminels qui avaient un chaque bord. Au début, les deux insultaient Jésus en plus. Toute la foule criait des bêtises à Jésus. Les deux criaient des bêtises à Jésus. Mais à un moment donné, il y en a un qui ça dit dans le texte, on va lire ça. Il dit, hey! Là, il commence à défendre Jésus. Il dit, nous autres, on mérite ce qu'on a fait. Il a commencé à parler à l'autre qui était crucifié à côté de lui. Nous autres, on le mérite ce qu'on a fait, mais lui, il ne le mérite pas. Puis là, ce gars-là parlait à Jésus parce qu'il connaissait Jésus, puis il savait que Jésus était le Messie, qu'il était le Sauveur, qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce gars-là s'est repenti. Puis il était prêt à dire, « Je veux être un sauvé, moi aussi. Je veux être sauvé, je veux être pardonné. » Jésus s'est retourné vers cette personne-là. Il dit, « Je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. » Ce gars-là, Jésus, il a dit que ce gars-là était pour être sauvé à cause de sa foi. Il a pris position publiquement pour dire qu'il croyait que Jésus était le Messie, qu'il était le Sauveur. Puis malgré qu'il est en train de payer pour ses fautes, il a reconnu, puis il l'a confessé, puis qu'il voulait être sauvé. Jésus, il a dit, « Sera avec moi au paradis. » Ça ne dit pas que ce gars-là a débarqué de la croix puis s'est fait baptiser d'eau. Je n'ai pas fait baptiser d'eau. Le baptême ne sauve pas. Le plus qu'il pouvait faire, c'est de prendre position. Il était cloué là, puis il était dû pour mourir là. Il a fait tout ce qui était dans son maximum d'affaires pour dire qu'il croyait en Jésus et qu'il voulait le suivre. Qu'il voulait aller à la même place que Jésus. Il ne pouvait pas faire autre chose que de parler. Il a fait ce qu'il pouvait. Il n'a pas été baptisé, puis Jésus il a dit qu'il serait un sauvé. Le baptême ne sauve pas. C'est notre engagement dans notre cœur qui nous sauve. Qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit de tout notre cœur? Est-ce qu'on a accepté? On a reconnu qu'est-ce qui était Jésus? On l'accepte comme notre sauveur en se repentant? Puis qu'on le confesse publiquement en le disant, c'est là qu'il se passe la vraie nouvelle naissance. Que Dieu va te pardonner à cause que tu demandes pardon. Puis il va te donner son Saint-Esprit. On va voir quelques versets rapidement pour expliquer que le baptême est le premier pas de l'obéissance. Acte 22, 16. Ça, c'est un passage que ça nous rapporte que le disciple est en train de parler à Paul. Paul il raconte son témoignage quand il s'est converti. Ça dit dans le texte, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'était comme, tu veux suivre Jésus, là? Parce que Paul, là, il croyait, il avait vu Jésus sur le chemin de Damas. Il croyait dans son cœur que Jésus était le Sauveur. Mais il n'avait pas encore fait de confesser de sa bouche, invoquer. Puis là, il dit, là, tu vas le faire, puis là, tu vas être pardonné. Puis là, tu vas obéir au Seigneur en te faisant baptiser. Ça dit, lève-toi, sois baptisé, lave de tes péchés en invoquant. T'es lavé de tes péchés en invoquant. Acte 2, 41. Acte 2, 41, ça rapporte l'histoire quand que... Il y a eu la Pentecôte, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Pierre il a prêché aux gens, à la foule. Puis il y a 3000 qui se sont convertis suite à sa prédication. Puis ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. Ça dit qu'ils étaient 120 en train de prier. Dans la chambre haute, ils priaient, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était tellement glorieux que le monde sont venus tout en foule, Pierre a commencé à lui prêcher, « Repentez-vous, sortez de cette génération perverse! » Puis tout ça, puis ça dit qu'ils ont eu le cœur touché, puis ceux qui ont accepté sa parole, ils se sont tous fait baptiser. Parce que c'est normal, tu t'engages à suivre Jésus, tu te fais baptiser d'eau. Il y a 3000 qui se sont fait baptiser. Gloire à Dieu. Acte 8, 12. Ça, c'est Philippe, un évangéliste, qui est en train d'évangéliser dans des villes. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Tous ceux qui croient se font baptiser. T'es dans une ville, il y a plusieurs qui acceptent Jésus, t'es amène tous, on va faire des baptêmes. On leur explique la parole, ils croient, engagez-vous. Et démontrez publiquement que vous êtes désengagés en vous faisant baptiser. Dernier verset, acte 18:8, qui est encore un dernier passage qui nous parle de ça. « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi, et furent baptisés. » Même dans une famille, tu es dans une famille, dans ta maison, tu entends parler du Seigneur, ta famille entend parler du Seigneur, des membres de tes voisins, des gens de ta ville qui entendent parler du Seigneur, puis ils viennent dans ta maison, ça dit, ils ont cru, première conséquence, se sont tous fait baptiser pour démontrer leur foi. Si je pose la question, croyez-vous que le baptême, ça vient de Dieu? Croyez-vous que Jésus était d'accord pour le baptême? Est-ce que les disciples en étaient d'accord? Est-ce que c'était pratiqué dans la foi chrétienne que quand tu crois, puis tu te repens, là tu décides de faire le pas pour Jésus, tu démontres ta foi publiquement en te faisant baptiser? Oui, ça faisait partie des pratiques bibliques. Est-ce qu'on doit encore la faire? Jésus a dit à ses apôtres, « Allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On va faire une prière ensemble pour finir cette étude-là. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on s'assemble. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, parce que nous y croyons. Nous savons quelle est la vérité. Et que par ta parole, nous avons la connaissance de ce qui est dans ta volonté. Je te remercie de nous avoir démontré qu'on peut croire en Jésus, y mettre notre foi avec la repentance, en regrettant nos péchés, puis que tu nous acceptes comme tes enfants, en nous pardonnant, en nous donnant ton Saint-Esprit, puis qu'en nous faisant vivre cette nouvelle vie. Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui a entendu ce message fasse la prière pour se repentir, pour s'engager envers toi, et qu'il se fasse baptiser pour démontrer publiquement, en prenant position publiquement, Seigneur, pour que démontrer qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie quand ils t'ont reçu. Cette nouvelle vie que tu as mis en eux, qui cette nouvelle marche dans une bonne conscience à te suivre, à te servir. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui sont ici, tous ceux qui écoutent les messages sur Internet, et je te prie de nous conduire dans toute ta vérité, dans le nom de Jésus. Amen.